Merci beaucoup.
Et surtout votre créativité. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle que vous apparaissez dans le documentaire diffusé sur Canal+, Fulguré, quand la foudre ne tue pas, réalisé par Émilie Gral et Michaël Royer.
Merci d'avoir écouté Héros. Dans un instant, frissonnez avec Jean-Alphonse Richard et l'heure du crime sur RTL. Bonne nuit et bonne écoute.
RTL, il est 2h. 24 heures d'info avec Aude Vernuccio.
Les cours reprennent ce jeudi au collège Françoise Dolto à Nogent, en Haute-Marne, après le meurtre d'une surveillante tuée par un élève de 14 ans. Le procureur de la République de Chaumont en a dit plus en conférence de presse sur le profil du suspect. Un jeune fasciné par la violence qui jouait à des jeux vidéo violents et qui ressassait son projet depuis samedi dernier. Il comptait s'en prendre à une surveillante, n'importe laquelle. Mardi matin, il a ramené au collège un couteau de cuisine de 34 cm. Face aux enquêteurs, il n'a exprimé aucun regret, aucune compassion, d'après le procureur. Face à cette violence, le gouvernement promet des mesures si le Premier ministre envisage l'installation de portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. Le ministre de la Santé dévoile un plan santé mentale des jeunes. Il veut doubler le nombre de personnes formées au secourisme mental d'ici 2027, propose des consultations sans rendez-vous dans les centres médico-psychologiques pour les jeunes. Il veut aussi renforcer Mon Soutien Psy pour rembourser plus de consultations aux jeunes. Enfin, il se dit favorable à l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Mohamed Amra, de retour dans sa cellule ultra sécurisée à Condé-sur-Sarthe. Il en a été extrait pour être entendu 3 heures par les juges chargés de l'enquête sur son évasion sanglante en mai 2014. Deux agents pénitentiaires avaient été tués au péage d'Incarville. Le narcotrafiquant n'a pas souhaité répondre aux questions sur l'affaire. Il a juste évoqué ses conditions de détention. La marque d'ameublement Casa, placée en liquidation judiciaire, aucune offre de reprise n'a été jugée recevable par le tribunal de commerce. 143 magasins sont concernés en France et 700 salariés. La Banque de France abaisse ses prévisions de croissance à 0,6% au lieu de 0,7% pour 2025. Le gouverneur François Villeroy de Gallo évoque le climat incertain, notamment sur les droits de douane américains. Une bonne nouvelle relative, les États-Unis envisagent de prolonger la pause sur ces droits de douane réciproques. Si les négociations sont de bonne foi, les discussions entre Bruxelles et Washington se sont tendues à plusieurs reprises. La pause doit prendre fin le 9 juillet. Et puis le cofondateur du célèbre groupe de musique The Beach Boys est décédé. Brian Wilson, 82 ans, interprète de tubes comme I Get Around ou Surfing USA. La famille dit savoir qu'elle partage sa peine avec le monde entier dans un communiqué. La météo, 4 départements du sud-ouest en vigilance orange aux orages. La Gironde, les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne. Retour au calme sur le nord-ouest ce jeudi. Quelques ondées entre l'Île-de-France et le centre. Une averse orageuse possible sur l'Auvergne et sur les Alpes du Sud. Les températures comptaient de 10 à 15 degrés sur le nord-est, de 15 à 20 ailleurs. L'après-midi, vous aurez de 20 à 25 degrés près de la Manche, de 27 à 33 degrés sur le reste du pays. Et puis les courses à Longchamp, les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, l'As, le 4, le 10, le 14, le 9, le 7 et l'outsider de RTL, c'est le 10, Alabama Moon.
RTL, 24 heures d'info.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
La rediffusion.
Une bombe déposée à l'extérieur du chalutier de l'organisation écologiste Greenpeace est probablement à l'origine du naufrage du Rainbow. Ce bâtiment a coulé avant-hier soir dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, après deux explosions qui ont provoqué la mort d'un des 11 membres d'équipage.
Bonjour. Le mercredi 10 juillet 1985, par une nuit tranquille, deux explosions secouaient le petit port d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Le bateau de l'organisation écologiste Greenpeace, le Rainbow Warrior, sombrait en une poignée de minutes. Une déflagration qui n'aurait jamais dû être entendue à Paris, à 18 000 km de là, si la soute éventré ne cachait un cadavre, celui du photographe Fernando Pereira, père de deux jeunes enfants pris au piège de la carcasse et mort noyé. Un attentat perpétré par les services secrets français, un crime d'État, une opération baptisée sataniques, des auteurs qui ne devaient pas être identifiés, sauf que dans la précipitation, les agents français ont laissé des traces. À partir d'un banal camping-car, la police néo-zélandaise va tirer un fil qu'elle ne va pas lâcher. 40 ans après, ce sont les derniers secrets de cette enquête que je vais vous raconter. Comment cette mission maudite a-t-elle fait trembler le sommet de l'État? Question posée aujourd'hui à notre invité de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. L'affaire du Rainbow Warrior, un mort en eau trouble, c'est tout de suite sur RTL. Mercredi 10 juillet 1985, 23h30, tout est calme. Au Waitermata Harbour, le petit port d'Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Sur l'un des bateaux à quai, le Rainbow Warrior, la soirée a été festive. On a célébré un anniversaire. L'ancien chalutier, bariolé d'un arc-en-ciel et facilement repérable, c'est le navire de l'organisation écologiste Greenpeace, en campagne contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. 23h38, dans un fracas sourd, une explosion déchire la coque. Une bombe placée sous la salle des machines, le bateau s'affaisse à tribord. Les occupants sortent en courant dans le désordre, effrayés. Quelques secondes plus tard, une deuxième déflagration cette fois. Le navire sombre et reste immergé aux trois quarts. Les militants de Greenpeace se comptent. Ils ne sont que 11, il en manque un. Le photographe et militant portugais Fernando Pereira, 35 ans, il vit aux Pays-Bas. Papa d'une petite fille et d'un petit garçon, Marel et Paul. À 4h du matin, les secours découvrent son corps dans l'épave. Prisonnier dans une cabine, il a péri noyé. Dans quelques heures, l'annonce de cette mort et les photos du Rainbow Warrior à demi englouti vont faire le tour du monde. Le commissaire Alan Galbraith, patron de la brigade criminelle, tiré du lit au petit matin, n'a aucun doute sur l'origine du drame. Un attentat parfaitement ciblé. La flottille Greenpeace et son vaisseau amiral, le Rainbow Warrior, ne sont pas les bienvenus dans le Pacifique. Galbraith pressent l'amorce d'une retentissante affaire. 22 inspecteurs sont mis sur le dossier. Ils collectent tous les témoignages possibles aux quatre coins du pays. En seulement une journée de travail, ils récupèrent ainsi un très bon tuyau. La nuit de l'explosion, deux vigiles d'une marina voisine ont observé à la jumelle deux silhouettes en train de décharger un canot pneumatique. Un vigile est allé voir. Un camping-car Toyota a démarré en tromble sous son nez. Il a pu noter l'immatriculation. Le véhicule est loué par un couple de Suisses domiciliés à Paris, Alain et Sophie Turange. Ils sont venus en Nouvelle-Zélande pour fêter leurs 10 ans de mariage. Ils ont loué le camping-car jusqu'au 23 juillet, on les surveille. Deux jours après l'attentat, 12 juillet, ils viennent restituer le véhicule à l'agence. Le détective Terry Batchelor est là. Il demande à vérifier les passeports. Les époux Turange sont conduits au commissariat d'Auckland. Le commissaire Galbraith est convaincu que ce mystérieux couple de touristes suisses est impliqué dans l'attentat, en garde à vue. On leur parle du Rainbow Warrior. Alain Turange dit avoir vu le bateau, mais à la télé. Quand l'explosion s'est produite, il était avec sa femme dans un motel à Helensville. On l'interroge sur leur camping-car aperçu par des vigiles. Alain Turange explique qu'il était sorti prendre l'air après une dispute avec sa femme. Il a aidé un type, un certain Peter, qui sortait des sacs d'un canot, mais il n'en sait pas plus. À 23h, le couple est relâché, assigné dans un motel. Des micros ont été installés dans la chambre. Sophie Turange appelle alors son tonton Émile, qui vit à Paris. Elle lui raconte la mésaventure. L'oncle en question n'est autre qu'un des responsables de mission à la DGSE, les services secrets français. Tonton Émile répond qu'il va bien sûr aider sa nièce. Il va lui trouver un avocat pour résoudre ce qu'il appelle un malentendu. Les Turanges, qui ne sont pas prêts de rentrer à Paris, mais ça on ne le sait pas pour l'instant, ils ne sont pas suisses mais ils sont français. Et ils sont en poste à la DGSE de leur vrai nom, Alain Maffard, 35 ans, Dominique Prieur, 36 ans. On va voir comment l'étau policier va se refermer sur ce faux couple. Ils étaient loin d'être les seuls à mener cette opération d'envergure qui est en train de tourner au fiasco. Il y a ces arrestations, et évidemment on le sait à Paris, on sait que les choses sont en train de basculer et que tout va mal et que cette opération elle risque d'en amené beaucoup d'ennuis à la République. Alors il faut reprendre dans l'ordre cette affaire passionnante, et surtout cette enquête qui est minutieuse et passionnante. On retourne à cette nuit de juillet, c'est l'hiver en Nouvelle-Zélande avec ces deux explosions. Bonjour Hervé Gattegno.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes déjà venu d'ailleurs dans cette émission et on vous remercie de votre présence. Vous êtes l'auteur de ce livre, Deux bombes sous le Rainbow Warrior, qui vient d'être publié aux éditions Flammarion. Ça sera bientôt l'anniversaire, hein, effectivement.
Oui,
entre
bientôt
guillemets.
Les 40 ans, c'était le 10 juillet, vous l'avez dit, voilà. 10 juillet 1985.
Alors si vous aimez effectivement les barbouzeries, si vous aimez les belles enquêtes policières, si vous aimez les affaires d'État, eh bien ce livre, il est pour vous, il faut absolument le lire et vous comprendrez tout. C'est très facile à lire, même moi j'y suis parvenu, vous voyez, c'est dire. Et effectivement, c'est le récit parfait de cette enquête. Moi j'ai appris plein de choses, et notamment du côté de l'enquête néo-zélandaise, parce que cette enquête, elle est formidable. Deux explosions, je le disais, Hervé Gattegno, ce sont des mines qui ont été collé sous la coque, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Deux plongeurs, des nageurs de combat, formés en Corse, à la base d'Aspreto à l'époque. Donc deux agents du service action de la DGSE qui vont coller, en effet, fixer deux bombes, une bombe de 5 kilos, une bombe de 15 kilos, sous la coque du Rainbow Warrior, dans le port d'Auckland lui-même, parce que la DGSE n'a pas voulu envisager à l'époque une opération en haute mer, pour une raison claire et nette, et on aura l'occasion d'y revenir, je pense, c'est que la DGSE veut absolument éviter des pertes humaines, et donc le scénario qui leur semble le plus sûr, c'est de faire couler le bateau dans le port pour que les gens qui sont à bord aient le temps d'évacuer.
Le fait est, c'est qu'on a pris beaucoup de risques, vous le dites dans votre livre, vous racontez très bien cette dernière soirée sur le Rainbow Warrior, cette soirée d'anniversaire très festive. Il y a beaucoup de monde, il y a une douzaine voire plus au début de personnes sur ce bateau, et effectivement, alors il y a la mort du photographe Fernando Pereira. Ça, ça change la donne, tout de suite.
Oui, ça change tout, parce que pour les agents, c'est un échec incroyable, donc ils le vivent comme tel. Quand ils apprennent à la radio, le lendemain matin, que leur bombe a fait un mort, bah, ils sont catastrophés. C'était vraiment l'un des objectifs principaux de la mission, c'était d'éviter des pertes humaines, je vous l'ai dit. Et puis, ça change tout pour les Néo-Zélandais aussi, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays qu'on connaît dans le monde entier pour son équipe de rugby.
C'est mouton.
Et un petit peu ses moutons, mais quand même un peu moins. Et surtout, c'est un pays très tranquille, dans lequel, au fond, sur le plan historique, il ne s'est jamais rien passé de grave. C'est la première fois qu'un attentat est commis sur le sol de la Nouvelle-Zélande, et cet attentat fait un mort. Et donc, la police néo-zélandaise va déployer des efforts extraordinaires, au sens propre, pour accomplir cette enquête.
Police qui, on le dit, est très professionnelle, parce qu'elle a été formée par Scotland Yard, hein, les cousins anglais. Et donc, effectivement, ce n'est pas du tout des débutants, ces policiers néo-zélandais. Un tout petit mot, Hervé Gattegno, pourquoi on s'en prend à Greenpeace et au bateau le Rainbow Warrior ?
Alors, Greenpeace, donc, organisation écologiste, fondée en 1971, dont le premier combat a été la protection des baleines, et le deuxième combat de Greenpeace, c'est l'opposition aux essais nucléaires, donc les grandes grandes puissances mondiales font des essais nucléaires dans le monde entier, les Américains, les Britanniques, les Français, et Greenpeace s'y oppose par tous les moyens, et Greenpeace a pris depuis les années 70 l'habitude de perturber les essais français dans l'océan Pacifique en envoyant des voiliers au milieu de la zone où doivent se produire les essais, ce qui évidemment empêche les essais d'avoir lieu. Donc à chaque fois, la marine française s'est débrouillée pour écarter ces bateaux, et cette fois, avec le Rainbow Warrior, Greenpeace est en quelque sorte passé à la dimension supérieure. Greenpeace a acheté un énorme bateau, et ça inquiète énormément les amiraux du Pacifique.
Enquête qui fait rêver, une journée pour avoir un témoignage capital. On voit les faux époux Turange qui sont interpellés très vite, on voit ce camping-car, on note l'immatriculation. C'est incroyable.
Alors là, on est vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire à la fois le manque de préparation de cette mission, parce que les agents français n'ont pas eu assez de temps, parce que l'ordre politique était pressant, il fallait faire vite, et donc quand on fait vite, ben, on ne fait pas bien.
On fait mal, oui.
Voilà, donc ils ont manqué de préparation, ils n'ont pas anticipé une donnée psychologique fondamentale dans la population néo-zélandaise, c'est l'incroyable civisme, un civisme puissance 10, c'est-à-dire que chaque citoyen néo-zélandais est un indicateur de police en puissance, et donc les Néo-Zélandais signalent tout ce qui leur paraît anormal. Et puis la deuxième donnée qui trahit le manque de préparation, c'est que les agents français n'ont pas été formés au droit anglo-saxon. Ils ne savent pas, au moment où ils sont arrêtés, qu'en vertu de la procédure néo-zélandaise, la police n'a pas le droit de les retenir contre leur gré tant qu'elle n'a pas de véritable charge contre eux. Et à ce moment-là, il n'y a pas de charge. Donc au fond, ils auraient pu partir et ils ne sont pas partis.
Les faux époux Turange sont sur surveillance. D'autres suspects identifiés sont en fuite. L'affaire du Rainbow Warrior, un mort en eau trouble, personne ne peut rien faire pour nous. Vous l'avez dit vous-même, je n'ai pas de pays, pour moi tout est fini. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Please me, you never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. The color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard. No love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah, I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you work that hard. No love.
just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go changing.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Au programme de l'heure du crime, l'affaire du Rainbow Warrior. Un mort en juillet 85 en Nouvelle-Zélande à bord de ce bateau de l'organisation écologiste Greenpeace, coulé par un plasticage. La police traque les auteurs de l'attentat, les services secrets français sont soupçonnés. Samedi 13 juillet 1985, trois jours après l'attentat mortel du Rainbow Warrior, la police d'Auckland retrouve le canot gonflable aperçu par des vigiles la nuit de l'explosion. Il est amarré dans la baie d'Hobson, il permet de remonter jusqu'à un superbe voilier, l'Ouvéa. Fin juin, il mouillait ici. L'équipage, quatre Français, est identifié, des fausses identités, à l'exception de Xavier Maniguet, un médecin connu pour ses accointances à la DGSE. Les autres sont des militaires, des nageurs de combat. L'Ouvéa aurait servi au transport de matériel et aux reconnaissances. L'équipage a lui aussi loué un camping-car. Le véhicule a été vu par des gardes forestiers sur un parking isolé, garé à côté d'un autre camping-car, celui des Turanges. Le lien est établi, mais le voilier est hors de portée, il a repris le large. La Nouvelle-Zélande lance un avis de recherche international. Dimanche 14 juillet, alors que le président François Mitterrand préside aux festivités du défilé sur les Champs-Élysées, la police néo-zélandaise reprend l'interrogatoire des époux Turanges. Ils sont accusés d'être porteurs de faux passeports suisses. Il n'y a aucune trace d'Alain Turange dans les archives de Genève. Que répondez-vous ? Demande le détective Batchelor. Réponse : je cesse de coopérer avec vous parce que vous dites que je n'existe pas, le détective ajoute. Je suis convaincu que vous et d'autres Français faites partie d'une conspiration qui a abouti à l'explosion. Sophie Turange est attendue, elle, par l'inspecteur Neil Morris. Elle sanglote, elle réclame un traducteur. « J'utilise une arme de femme », confiera-t-elle. Elle admet qu'Alain n'est pas son mari, pour le reste, elle ne peut rien dire. On l'autorise à rappeler son tonton Émile, en France. Mais cette fois, le correspondant est cassant. « N'appelez plus », ordonne-t-il. Les Turanges sont grillés. Dans quelques heures, le couple va être identifié par la Nouvelle-Zélande comme étant Alain Maffard, 35 ans, affecté au service Action de la DGSE, spécialiste des missions clandestines, et Dominique Prieur, 36 ans, karatéka, tireuse d'élite, première femme à avoir intégré le service Action. Lundi 15 juillet, Alain Maffard et Dominique Prieur sont inculpés pour entrée illégale sur le territoire, détenus à la prison de Mount Eden. En garde à vue, un policier confie aux deux agents qu'en Nouvelle-Zélande, un meurtre, allusion à la mort du photographe de Greenpeace, est puni de la peine de mort. Maffard dit qu'il acceptera la sentence. Personne ne peut rien faire pour nous. Vous l'avez dit vous-même, je n'ai pas de pays. Pour moi, tout est fini, déclare le Français. Une nuée de photographes guette le couple à la sortie du tribunal. Maffard tente de dissimuler son visage. Avec sa main, Prieur remonte son pull. Photo qui, dès le lendemain, fait la une des journaux du monde entier. Photo très célèbre encore aujourd'hui, c'est un très grand classique, cette photo des deux faux époux Turanges démasqués. Donc ils ne sont plus espions à ce moment-là, c'est fini pour eux. La carrière à la DGSE est terminée puisqu'on voit leur visage et à partir de là, ben, un espion n'est plus un espion. Ça redevient un fonctionnaire lambda. On va voir dans quelle direction l'enquête va aller dans le prochain chapitre de l'heure du crime. Et puis on va voir toutes ces surprises qui vont survenir avec ce scandale qui va toucher le sommet de l'État français jusqu'au président Mitterrand. Alors il faut revenir effectivement aux investigations de la police néo-zélandaise. On le fait avec vous, Hervé Gattegno, journaliste, auteur du livre « Deux bombes sur le Rainbow Warrior », livre qui est publié aux éditions Flammarion et qui revient avec beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de témoignages et beaucoup de procès-verbaux récupérés notamment dans l'enquête néo-zélandaise que vous exposez dans ce livre. On apprend plein de choses. Les faux époux Turanges, alors eux, ils sont évidemment dans l'œil du cyclone. Là, on les a démasqués. Les Néo-Zélandais, ils sont allés très très vite. on a du mal à les coincer quand même lors de ces interrogatoires. Hein. Vous relatez ces interrogatoires dans votre livre, vous avez eu accès aux procès-verbaux. C'est très étonnant ce dialogue entre les policiers néo-zélandais et ces espions français.
Oui, on a l'impression que chacun bluffe en réalité. Les enquêteurs font comme s'ils en savaient plus qu'ils n'en savent et comme s'ils avaient des éléments probants qui leur permettent d'être catégoriques. Et les faux époux Turange, les deux agents français, au fond, essayent de répondre par des questions à des questions. Ils essaient eux-mêmes de savoir ce que la police néo-zélandaise sait. Donc on est dans
un jeu de dupe,
dans une sorte de jeu de dupe, exactement. Et pendant ce temps, rien n'avance. Mais ce que les agents français ne savent pas, c'est que le temps joue contre eux parce que la police néo-zélandaise mise tout sur leurs papiers d'identité. Les permis de conduire, on l'a dit, qui sont des permis français, et les passeports suisses qui vont les trahir. Parce que ces passeports sont des faux et que le service leur a attribué des passeports qui peuvent être dévoilés
comme faux, détectés comme faux,
parce qu'ils portent des vrais numéros. Ce sont des passeports qui ont été utilisés par le passé et qui étaient attribués à d'autres personnes, dont l'une de ces deux personnes est décédée. Évidemment, la police suisse, quand elle est interrogée par les autorités néo-zélandaises, elle ne va pas mettre longtemps à trouver ce détail.
Les policiers néo-zélandais, c'est pas qu'il faut leur tirer notre chapeau, mais effectivement, ils travaillent très très bien, ils travaillent très très vite, vous l'avez dit, sur ce petit territoire où tout le monde se connaît.
Avec l'aide de la population.
Voilà, qui est très solidaire. Effectivement, cet attentat, il est insupportable pour les Néo-Zélandais. On est venu vraiment briser le calme de ce petit pays. Il y a une deuxième équipe qui est très vite identifiée, c'est le voilier UVA. Alors là, on est en plein roman policier, là. Ce très beau voilier avec des hommes à bord qui sont en fait des militaires de la DGSE, des plongeurs de combat. C'est John Le Carré.
Alors, trois sous-officiers de la DGSE, plus, vous l'avez dit, un médecin qui est considéré comme un honorable correspondant, comme on dit, donc quelqu'un qui fait des missions pour la DGSE, mais sous son vrai nom, c'est le docteur Maniguet. Les trois autres, donc trois sous-officiers d'élite, notamment l'un qui est considéré comme un skipper tout à fait remarquable, et d'ailleurs, il va le démontrer dans la mission, parce que dans une mer démontée, il va réussir à deux reprises à faire passer l'UVA dans des eaux très difficiles pour des voiliers de ce type. Et sur place, les trois marins français se font remarquer par la population. Ils sont dragueurs, ils sont buveurs, des fêtards. Non, mais ce n'est pas très discret, mais il y a une part volontaire dans ces démonstrations. C'est-à-dire que ces sous-officiers-là ne vont pas poser la bombe. Ils ne participent pas à la pose de la bombe. Leur véritable rôle, c'est que c'est eux, c'est l'équipe de l'UVA qui apporte les explosifs et le matériel qui va être nécessaire aux plongeurs.
C'est la logistique.
Pour saboter le Rainbow Warrior. Donc ils transportent l'arme du crime, en quelque sorte. Et eux, ils sont tranquilles, ils savent que comme ils ne font pas partie de la pose des bombes et de la mission dans son caractère le plus opérationnel, au fond, ils peuvent se faire remarquer. De toute façon, ils vont quitter la Nouvelle-Zélande avant l'attentat. Donc, ils pensent qu'ils ne peuvent pas être suspectés.
Ils sont déjà loin. Alors, il y a beaucoup de monde sur cette opération. On ne le sait pas beaucoup, ça, mais sur les opérations secrètes, comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de monde. On va en dire un mot. Il y a aussi une Française qui a infiltré Greenpeace avant ça. C'est passionnant aussi, vous le racontez.
Alors, pendant des mois, avant l'opération elle-même, une capitaine de la DGSE, qui s'appelle Christine Cabon, donc son pseudonyme est Frédéric, elle infiltre l'antenne de Greenpeace à Auckland, elle copine avec tout le monde, elle devient la coqueluche des militants de Greenpeace en Nouvelle-Zélande, et elle est là pour recueillir de l'information, et notamment de l'information sur la durée de séjour du Rainbow Warrior à Auckland, et de l'information sur le territoire néo-zélandais, les endroits où on peut se donner rendez-vous discrètement, les endroits où l'UVA va pouvoir relâcher, amarrer. Elle a un rôle décisif, mais probablement un peu trop. On lui a probablement confié un peu trop de missions à cet agent. Et elle a commis quelques erreurs et quelques confusions qui vont peser lourd par la suite sur le déroulement de la mission.
Eh oui, parce que la mission va capoter. Dans la tempête, le ministre français de la Défense, lui, eh bien, il va sauter. L'affaire du Rainbow Warrior, un mort en eau trouble. Les faits sont trop graves. La liberté sous caution est refusée. L'enquête de l'heure du crime. Deux ou plus sûrement trois équipes pour faire couler le bateau. Combien d'agents secrets pour l'opération satanique ? On se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Plus de contrôle sur les applications que leurs ados téléchargent, Instagram demande une réglementation européenne. Cette réglementation exigerait la vérification de l'âge et un accord parental sur l'App Store, là où les applications sont téléchargées. Les ados devraient être mieux protégés contre le téléchargement d'applications qui ne sont pas adaptées à leur âge. L'accord parental sur l'App Store peut aider à les protéger. Pour en savoir plus, rendez-vous sur instagram.com/accordparental.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400€ par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200€ option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5000€. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 Adata mai 2025. Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Aucune organisation dépendant de mon ministère n'a reçu l'ordre de commettre un attentat contre le Rainbow Warrior.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire du Rainbow Warrior, juillet 85, Nouvelle-Zélande. Un mort dans l'explosion du bateau des écologistes de Greenpeace, un attentat ciblé. Les services secrets français apparaissent derrière ce plasticage mortel. Le scandale va atteindre le sommet de l'État. Mercredi 14 août 1985, un mois après l'attentat contre le Rainbow Warrior, Alain et Sophie Turange comparaissent à 11h du matin devant la cour de district d'Auckland. Le couple est entré au tribunal, les visages dissimulés par des serviettes éponges. Précaution vaine, deux jours plus tard, le magazine L'Express va révéler la véritable identité du couple. Les Français sont accusés de meurtre, conspiration, incendie volontaire, usage d'explosifs. Les faits sont trop graves, je refuse la liberté sous caution, déclare le juge. Les autorités françaises, médusées, inquiètes, assistent à l'échec de l'opération satanique devenue affaire d'État. Il faut éteindre l'incendie par tous les moyens. Lundi 26 août, le rapport demandé au conseiller d'État Bernard Tricot exonère ainsi la DGSE de toute responsabilité. Au conseiller d'État, les patrons des services secrets ont juré que la mission des agents sur place se cantonnait au seul renseignement. Ils n'ont rien à voir avec l'attentat. Les faux époux Turange n'ont effectivement pas posé les explosifs, mais silence des services secrets sur les autres équipes présentes, notamment celle qui a plastiqué le bateau. Mardi 17 septembre, le journal Le Monde révèle la présence de la fameuse troisième équipe. En plus des faux époux Turange et des hommes du voilier Ouvéa, des nageurs de combat ont posé les charges explosives. Trois jours après l'article du Monde, le ministre de la Défense, Charles Hernu, démissionne. Et on est donc bel et bien dans une affaire d'État, parce qu'un ministre qui démissionne, bah, c'est pas banal, et on va se demander ce que savait le président François Mitterrand. Tout de suite, parlons un petit peu de ces fameuses équipes qui sont sur place, parce que là, on a à la fois les époux Turange, qui étaient là pour effectivement prendre des renseignements, surveiller le déroulement de l'opération, vous allez nous le dire, Hervé Gattegno. L'équipe de voilier Louvéa, on l'a dit, la logistique, amener les explosifs, et puis il y a la mystérieuse équipe des plongeurs qui ont plastiqué le bateau. Hervé Gattegno, alors vous racontez tout ça dans votre livre « Deux bombes sous le Rainbow Warrior » qui vient d'être publié aux éditions Flammarion. Et combien y a de personnes, finalement, sur place? Une dizaine, douzaine, quinzaine.
Alors au total, en Nouvelle-Zélande, probablement entre 15 et 20. Je dis probablement parce que ce n'est écrit nulle part. Vous savez, en matière de services secrets, moins il y a d'écrits et mieux on se porte. Donc c'est très difficile. Moi, j'ai retrouvé beaucoup d'archives pour mon livre, des archives qui probablement n'avaient jamais été vues avant moi. Mais il n'y a rien de réellement précis récapitulant en quelque sorte la mission. On sait donc par recoupement. Enfin, moi, je sais par recoupement qu'il y avait au moins une quinzaine de personnes. Au total, une trentaine de personnes sur le terrain, parce qu'il y a aussi des agents postés en Polynésie, des agents postés en Nouvelle-Calédonie, des agents en Australie. Donc, vous avez une trentaine de personnes qui sont dans la zone, et parmi lesquelles la plupart des chefs du service action, tous les principaux officiers du service action sont présents dans la mission.
30 personnes, vous dites, vous qui connaissez bien ce sujet et qui vous connaissez bien le fonctionnement des services secrets, c'est le quantum habituel pour ce genre de mission?
J'ai envie de vous dire que quand on regarde ce qui s'est passé et le manque de préparation, on en a dit un mot tout à l'heure, la brièveté de la préparation de cette mission, probablement il aurait fallu davantage de monde en réalité. Les agents secrets pratiquent le taylorisme dans une mission comme celle-là, chaque personne a un rôle à jouer, et un seul, et on se passe le relais en quelque sorte d'un agent à l'autre, ou d'une équipe d'agents à une autre. Là, dans cette opération satanique, il est arrivé que des agents soient obligés d'accomplir plusieurs tâches, et ça c'était s'exposer.
Une erreur aussi.
Oui, c'est une erreur de conception, mais qui est due encore une fois au manque de préparation. Il y a donc sur place, outre les trois équipes dont vous avez parlé, il y a un chef de mission, le colonel Dillet, qui est présent. Il y a plusieurs autres agents qui sont là. Il y a aussi des agents qui sont des remplaçants au cas où l'un des agents des trois équipes ferait défaut parce qu'il tomberait malade ou qu'il aurait un accident. Enfin, donc vous voyez, il y a tout un dispositif qui est déployé sur une opération comme celle-là.
Alors ça, c'est passionnant parce qu'on imagine, on voit toujours ceux qui posent une bombe, etc. Mais effectivement, toute cette organisation derrière qui là est totalement défaillante. Résultat, il y a une crise au sommet de l'État français parce que là, on veut couper des branches, comme on va dire. C'est-à-dire qu'il faut trouver des responsables, mais on n'en trouve pas. D'ailleurs, le premier rapport, c'est de dire, la DGSE n'a rien à voir. Mais ça n'abuse personne.
Non, ça n'abuse personne, parce que à ce moment-là, on a entendu donc les mots de Charles Hernu, le ministre de la Défense de l'époque, qui nie contre toute évidence, parce que bien sûr, tout le monde a compris à partir de ce moment-là, à partir du 20-25 juillet, tout le monde comprend à l'intérieur de l'appareil d'État que bien évidemment, ce sont les services français qui sont les auteurs de cet attentat. Je dis dans l'appareil d'État parce que à l'époque, ça peut paraître un peu fou vu d'aujourd'hui, mais à l'époque, la presse n'en a pas encore parlé, le secret est complètement gardé, l'opinion française n'est au courant de rien. C'est seulement à partir du début du mois d'août que l'opinion française va avoir vent de cette opération et de l'implication des services français par la presse, il faut le dire. C'est la presse qui, la première, va mettre en évidence le rôle de la DGSE dans cette affaire.
Les faux époux Turange vont être les seuls à être jugés. L'affaire du Rainbow Warrior, un mort à nos troubles. Devant vous se tiennent deux officiers de l'armée française. Ils ont agi sur ordre. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Me.
crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire du Rainbow Warrior. Juillet 85, le bateau des écologistes de Greenpeace est coulé dans le port d'Auckland. Un mort dans l'explosion. Les services secrets français ont mené l'opération. Quatre mois plus tard, deux agents sont jugés. Lundi 4 novembre 1985, Alain Maffard, Dominique Prieur, les faux époux Turange pénètrent à 10h26 dans la salle de la Haute Cour de Nouvelle-Zélande à Auckland. 147 journalistes observent les espions déchus. Lui, veste de tweed gris, elle, tailleur beige, lunettes au vert teinté, chevelure décolorée blond platine. Leur avocat tente de minimiser leur rôle. Devant vous se tiennent deux officiers de l'armée française. Ils ont agi sur ordre. Un rôle de support dans une mission stupide. L'avocat ajoute, des mesures extraordinaires ont été prises pour éviter de blesser quelqu'un, elles ont échoué, au grand remords du commandant Maffard et du capitaine Prieur. Le représentant de la couronne reconnaît que les preuves de l'intention de tuer manquent. Quant aux plongeurs poseurs de bombes, ils n'ont pas été arrêtés. Le juge Gilbert demande à Dominique Prieur, coupable ou non coupable ? Coupable, répond-elle. Même réponse du côté d'Alain Maffard, il n'y aura donc pas de procès. L'audience a duré 36 minutes. Le jugement sera rendu dans 3 semaines. Jeudi 21 novembre, veille du jugement, le président François Mitterrand souhaite que les magistrats comprennent que les deux agents n'ont pas agi de leur propre chef, mais par discipline. Alain Maffard, Dominique Prieur sont condamnés à 10 ans de prison. Ils sont effondrés. Leur avocat français, Daniel Soulez-Larivière, confie. Maintenant, tout est politique. Un an plus tard, après négociation, Maffard et Prieur seront transférés sur l'atoll de Ao, en Polynésie française, pour y terminer leur peine. Politique dans cette affaire, c'est ce que dit Daniel Soulez-Larivière, qui était effectivement à cette époque l'avocat des Français. C'était un avocat qui était lié d'ailleurs à la DGSE. Daniel Soulez-Larivière, c'est un grand avocat français. Tout est politique et tout est à l'Élysée, j'ai envie de dire. Hervé Gattegno, vous êtes avec nous dans l'heure du crime, journaliste, auteur du livre « Deux bombes sous le Rainbow Warrior » publié aux éditions Flammarion. Merci d'ailleurs de nous donner la primeur de cet ouvrage. Hervé Gattegno, François Mitterrand, évidemment, il a été pas entraîné dans cette affaire parce qu'il était au courant de cette opération, évidemment. Mais là, ça le dépasse complètement et il sent que tout lui échappe.
Alors, d'abord, vous dites il était au courant, évidemment.
D'après ce que j'ai pu lire, mais...
Pas tout à fait, évidemment. Il est au courant parce que le 15 mai, donc je rappelle, l'attentat a lieu le 10 juillet, le 15 mai précédent, le président de la République reçoit le directeur de la DGSE, l'amiral Lacoste, qui vient lui faire approuver ou non le projet d'attentat. Et donc, François Mitterrand va approuver ce projet d'attentat. Mais je vous reprends sur l'adverbe « évidemment » parce que, normalement, dans une opération comme celle-là, le chef de l'État n'avait pas forcément à être informé. Le chef de l'État, il ne doit être informé réglementairement que lorsque la vie de quelqu'un ou de quelques-uns est en jeu. Ce qu'on appelle les opérations homo, c'est-à-dire les opérations qui visent à attenter à des vies humaines. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une opération Arma, donc une opération qui vise à détruire un bâtiment, en l'occurrence un navire, et donc l'ordre du ministre de la Défense était suffisant. L'amiral Lacoste est allé à l'Élysée parce qu'il s'inquiétait, et parce que son service s'inquiétait, justement, des conditions de grande précipitation dans lesquelles cette mission était organisée. Et donc, au fond, l'amiral Lacoste, il espérait plutôt un feu rouge, et ce feu rouge ne vient pas. François Mitterrand approuve la mission, et à partir de ce moment-là, tout s'enclenche. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début de ce fiasco, c'est-à-dire quand on apprend la mort du photographe, François Mitterrand va recouvrir toute cette affaire d'un voile de mensonge. Mensonge qui vise à préserver son propre rôle, c'est-à-dire c'est lui qui a donné le feu vert de cette opération, probablement sans en connaître les détails, mais en sachant qu'il s'agissait d'un attentat. Et mensonge qui vise à préserver les intérêts de l'État français, parce que l'État s'est mis dans une sale affaire vis-à-vis d'un pays allié, la Nouvelle-Zélande, qui est une démocratie gouvernée, qui plus est à l'époque, par un gouvernement social-démocrate, donc ami du gouvernement français. Et donc la France, pour se sortir de ce mauvais pas, n'a pas d'autre choix que de mentir.
Alors, en tout cas, il y a, c'est pas deux lampistes, parce qu'effectivement, ils sont impliqués dans cette opération, les faux époux Turange, Alain Maffard, Dominique Prieur. Procès, je l'ai dit, 36 minutes d'audience. Évidemment, c'est le droit anglo-saxon, hein, donc vous plaidez coupable, donc il n'y a pas de procès.
C'est un deuxième choc dans l'opinion néo-zélandaise à l'époque, qui s'attend à un procès fleuve avec des audiences publiques dans lesquelles la France va être humiliée, dans lesquelles on va raconter ce qu'a fait le service secret français sur le territoire néo-zélandais qui scandalise la population. Et finalement, le procès est escamoté. Pourquoi ? Parce que avant ces 36 minutes d'audience, il y a eu des jours de négociations très subtiles et très habiles de la part de Daniel Soulez-Larivière, leur avocat, vous l'avez dit, coordonné avec l'ambassadeur de France, avec l'État français. Et il s'agit donc de négocier avec la justice néo-zélandaise qui, en effet, n'a pas les preuves de la culpabilité des Turange, et pour cause, ils ne sont pas les poseurs de bombes et rien ne permet de les relier directement à cet homicide qui aurait causé la mort de ce photographe. Et puisque les preuves font défaut, il faut que les Néo-Zélandais, eux aussi, sortent par le haut de cette crise, et au fond, tout le monde a intérêt à ce moment-là à négocier pour adoucir le sort des Turange. Néanmoins, à la fin, ils sont condamnés, vous l'avez dit, à 10 ans de prison. Ils échappent à une peine à perpétuité. Pourquoi ? Parce que l'autopsie du corps du photographe Fernando Pereira est providentielle pour eux, parce que l'autopsie démontre que le photographe n'est pas mort directement de l'explosion, il est mort noyé à l'intérieur du navire, de sorte qu'on peut considérer que les Turange sont complices de quelque chose, mais que ce quelque chose n'est pas un meurtre, mais plutôt un homicide involontaire.
Deux condamnés qui n'effectueront jamais la totalité de leur peine. L'affaire du Rainbow Warrior, un mort à nos troubles. Dans cette mission, tout était fait à la va-vite. Nous étions persuadés que ça n'irait pas jusqu'au bout. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we. Jealous knowing we found something so out.
Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Dans l'heure du crime, l'affaire du Rainbow Warrior. En 1985, le bateau des écologistes de Greenpeace coulé par les services secrets français à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Un mort, deux agents de la DGSE arrêtés, condamnés à 10 ans de prison. Peine qu'ils n'accompliront pas en totalité. Dimanche 13 décembre 1987, un an après avoir été transféré sur l'atoll polynésien français de Ao, le commandant Alain Maffard est transféré en métropole. Il doit être soigné pour une occlusion intestinale. Malgré les protestations de la Nouvelle-Zélande, l'ancien nageur de combat ne retournera jamais sur l'atoll. 3 mai 88, c'est au tour de la capitaine Dominique Prieur de rentrer à Paris. Elle est enceinte. Elle non plus ne reviendra pas à Ao. Alain Maffard et Dominique Prieur, seuls visages connus de l'opération satanique, vont se faire oublier. Dans cette mission, tout était fait à la va-vite. Je m'inquiétais, mais au fond, nous étions persuadés qu'un feu rouge interviendrait, que ça n'irait pas jusqu'au bout, confiera Dominique Prieur au journaliste Hervé Gattegnaud.
10 ans de prison, j'avoue, je ne sais pas quoi penser, je suis sur le coup, là. Lorsque une mission se termine comme cela, généralement, on ne continue pas. Surpris quand même de la sévérité.
Et c'est un document exceptionnel. C'est la voix de Dominique Prieur. Elle était interrogée à l'époque, c'était juste après le verdict du procès, elle était interrogée à l'époque par Philippe Nécan, journaliste à RTL, et qu'on salue d'ailleurs parce que je sais qu'il nous écoute. Interview incroyable qui a été réalisée dans la prison où elle était incarcérée. Philippe Nécan a appelé, il m'avait raconté ça, c'est complètement fou. Il avait appelé la prison et puis hop, on lui avait passé tout simplement Dominique Prieur. Quoi de plus simple finalement. Alors donc, il y a cette opération satanique qui se termine un petit peu en zigzag, je ne veux pas dire que de poisson, parce que ça serait un mauvais jeu de mots, mais qui effectivement, la diplomatie a pris le dessus, les agents ont été plus ou moins exfiltrés, déposés sur cet atoll, et puis finalement, ils ne vont jamais revenir, ils ne vont jamais faire totalement leur peine. Opération satanique, d'ailleurs, c'est quel drôle de nom, on se croirait dans une bande dessinée. Hervé Gattegnaud, vous êtes l'auteur du livre « Deux bombes sous le Rainbow Warrior », qui est publié aux éditions Flammarion.
Oui, c'est vrai que c'est un peu ridicule, mais peut-être que l'inconscient y a sa part, vous savez. John Le Carré, grand spécialiste de ces affaires, disait « Les services secrets sont l'inconscient des grandes démocraties occidentales dans cette affaire qui ressemble à un gigantesque acte manqué. » On peut dire qu'il y a beaucoup d'inconscients. Le choix de ce mot pour intituler cette opération, il vient du fait que le service action avait pris l'habitude de donner comme nom de code à toutes ces opérations des mots commençant par SA, comme service action. D'accord. Et donc ensuite, bah, bêtement, le chef du service action, le colonel Lesker, prenait le dictionnaire et il regardait quels étaient les mots qui commençaient par SA et il a trouvé tout simplement satanique et peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte au moment où il a fait ça que ça n'allait pas porter chance à l'opération, non. Alors même qu'un grand nombre d'agents de son propre service émettaient plus que des réticences envers cette opération. Incontestablement, ce mot prédisait quelque chose de fatidique pour cette opération.
Alors, dans votre ouvrage, hein, les deux bombes sous le Rainbow Warrior. Évidemment, vous avez recueilli beaucoup de témoignages et vous avez eu accès notamment, elle vous a parlé à Dominique Prieur, que vous connaissiez, mais vous l'avez recontacté et elle vous a livré beaucoup des informations, elle vous a parlé et elle dit, mais personne n'y croyait à cette opération. Il aurait fallu que ça s'arrête. On espérait tous que ça s'arrête parce qu'on savait en gros qu'on allait à la casse. Je traduis un petit peu ses propos. Elle, des années après, aujourd'hui, elle a toujours ce sentiment.
Oui, c'est encore un traumatisme pour tous ceux qui ont appartenu au service action dans ces années-là, et même à la DGSE en général, et encore plus particulièrement pour les agents qui ont été directement impliqués dans cette opération-là. J'ai compris une chose en parlant avec un certain nombre d'anciens et plusieurs protagonistes de la mission satanique, c'est que dans la vie des agents secrets, très souvent, les opérations sont préparées minutieusement pendant des mois et n'ont finalement jamais lieu. C'est très souvent le cas. Et c'est presque exceptionnel qu'une opération de ce type soit menée jusqu'à son terme. Celle-là, elle avait tous les clignotants qui étaient au rouge et tout indiquait au fond qu'il ne fallait pas la mener, cette mission. Et donc, jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, même encore en place en Nouvelle-Zélande, sur le terrain, les agents ont pensé qu'une intervention arriverait à point de nommé pour arrêter tout ça. Et finalement, cette intervention, elle n'est jamais venue. Et l'opération a eu lieu et elle a donné le fiasco militaire et le fiasco politique que l'on sait.
D'ailleurs, il y a tout un chapitre dans votre livre où vous l'appelez la mission maudite. Effectivement, la mission maudite, parce qu'il n'y a rien qui marche. Tout va commencer à se désagréger. Et finalement, ça va être vraiment une débandade pour les services français. Hervé Gattegno, je le disais, vous avez rencontré beaucoup de monde pour faire ce livre. Aujourd'hui encore, avec le recul, les gens qui étaient à l'époque dans les services secrets, au service action, etc., à la DGSE, au ministère, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'aveu d'échec, vraiment. Ils ont du mal à en parler et à reconnaître que finalement c'était une erreur, tout ça.
Alors ça a longtemps été une tâche dans la réputation du service vis-à-vis de l'extérieur et un traumatisme pour les gens du service à l'intérieur. Et ce traumatisme a généré un phénomène qu'on connaît bien, c'est une sorte de phénomène de déni. On a mis l'opération satanique sous le tapis, on n'a plus voulu en parler. Il n'y a jamais eu la grande réunion de débriefing,
ben oui,
comme on le fait dans ces cas-là. Les agents eux-mêmes s'en sont pleins. Maffar et Prieur, lorsqu'ils ont finalement rentré en métropole 2 ans plus tard, ils auraient aimé en fait qu'on les